C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4:09, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Au printemps 1968, il ne reste que deux radios maritimes au monde. Veronica, au large des côtes hollandaises, et Radio Oraki, en Nouvelle-Zélande. Les côtes britanniques, jadis assiégées par les navires et autres émetteurs implantés sur des forts marins, sont maintenant totalement silencieuses. La loi, ayant pour but d'isoler ces radios sur mer, n'a pas eu besoin de faire ses preuves. Tous les émetteurs se sont tus juste avant son entrée en vigueur, le 15 août 1967, à 0 heure. Radio Caroline a persévéré, mais dès le début, sa survie est devenue plus compliquée. Et le programme Radio One, lancé par la BBC, n'a pas tardé à séduire le public. Le 3 mars 1968, les deux navires de la station résistante sont remorqués vers Amsterdam. Et il semble alors clair que Caroline ne reviendra pas rapidement sur les ondes, si même elle revient. Les vraies causes du remorquage des deux navires de Radio Caroline ne sont pas claires. Du côté de la direction de la station, on prétend qu'il s'agit d'entretenir et de réviser les deux bateaux. Mais pourquoi avoir procédé en même temps et interrompu simultanément les deux programmes ? Aux rumeurs de factures impayées à la compagnie qui assurait l'entretien et le ravitaillement du Miamigo et du MV Caroline, la radio répond que les fonds étaient disponibles, mais que pour des questions d'administration défaillantes, ils n'ont pas été versés à temps. De son côté, la Wismuller Tender and Supply Company s'est comportée d'une façon particulière en procédant à la saisie des deux navires apparemment sans y avoir été autorisée par une décision de justice. Le comportement de Ronan O'Reilly est aussi singulier. Il préfère visiblement s'intéresser à d'autres bateaux. C'est d'abord le Galaxy qui retient son attention. L'ancien dragueur de mine de la marine américaine qui fut utilisé par Radio London et qui est dans le port de Hambourg. Mais le prix demandé est trop élevé. Soutenu par quelques DJ de la station comme Don Allen, Roger Day ou Andy Archer, Ronan O'Reilly va alors s'intéresser à l'Ocean 7. Il se rendit plusieurs fois dans le port de Whitby où l'ancien navire de Radio 270 était toujours en vente. Sous le nom de Monsieur O'Connor, il entame des négociations avec le propriétaire Wilf Proudfoot. L'idée serait d'ancrer l'Ocean 7 à l'endroit jadis occupé par le Miamigo et de redémarrer Radio Caroline. Une date est même annoncée, le dimanche 14 avril. Mais la presse ébruite l'affaire et Wilf Proudfoot met vite un terme au contact. Le Galaxy fait l'objet de nombreuses convoitises. Il est finalement acquis durant l'été 68 par l'agence de publicité suisse Gloria, basée en Allemagne, qui a l'intention de lancer la première radio offshore ouest-allemande. Elle prévoit de démarrer des programmes le 1er novembre 1968. Le Galaxy sera ancré au large de Helgeland. Plusieurs noms circulent à propos de cette station, Radio Gloria ou Radio Nordsee. Il s'agirait d'une radio musicale généraliste à tendance pop. Deux ingénieurs suisses, Erwin Meister et Edwin Bollier, sont engagés pour la partie technique. Mais le 1er novembre, aucun programme ne démarre. Toutefois, on va reparler de ce projet qui finira par voir le jour. Le 2 mars 1969 à minuit, presque un an jour pour jour après la disparition de la première des radios maritimes anglaises, sur la fréquence 428 mètres, juste après l'arrêt des émissions de Radio Andorre, voici ce que les auditeurs peuvent entendre.
Good morning, ladies and gentlemen. This is Don Allen speaking. And by the courtesy of Radio Andorre on 428 meters, we will now, for the next hour, be bringing you the Caroline Revival Hour. As Caroline's veteran disc jockey with 3 years of service to Radio Caroline South and Radio Caroline North, it now gives me great pleasure to present the Caroline Revival Hour. And in answer to the many thousands of letters pouring into the Caroline Revival Hour, we will now be highlighting the spirit of Radio Caroline and some of the DJs who will be appearing on the show tonight. First, let's turn back the clock to August the 15th.
This is your radio station. This is Radio Caroline. It is now 12 midnight.
La station maritime historique des années pop britanniques est de retour pour une émission revival. Ce comeback a été annoncé depuis plusieurs jours en espagnol sur l'antenne de Radio Andorre. C'est Don Allen qui est au micro. D'autres voix historiques de la station interviennent par téléphone. Les auditeurs sont invités à écrire à une adresse située en France, à Nogent, dans le Val-de-Marne. Le directeur des programmes de Radio Andorre promet qu'il y aura d'autres émissions faisant revivre l'esprit de Radio Caroline. On spécule déjà sur le fait que la station pourrait régulièrement diffuser certaines nuits sur la fréquence de Radio Andorre. Et le Daily Mail annonce qu'une prochaine émission est déjà prévue le 27 mars.
Well, by golly, we're going to try our telephone line once again, see if we can't head over to Manchester this time, in and around the Manchester area. And I'd like to say a very good morning to a person who probably or logically is known as the voice of Radio Caroline North. And I'm speaking of none other than the Baby Bob Stewart. So, Bob, if you're on the other end, do come in loud and clear, okay?
Hi there, this is your Bobby Baby that loves you so crazy. We hope that you're enjoying the Caroline Revival Hour on Radio Andorra with Daffy Don Allen, and we hope that it won't be the last, nor the last of Caroline. Have yourself a good show, Don, and good luck to everybody that's listening in.
Thank you very much indeed there, Bob, for that wonderful word, and to a lot of Baby Bob Stewart fans in and around the Caroline North listening area, you'll have no difficulty in recognizing this tune.
Robbie Dale, une voix historique de Radio Caroline South, poursuit une carrière en Hollande. Après avoir fait plusieurs apparitions sur Radio Veronica, il anime parfois le jam show sur la très populaire Tros Télé.
The Fortunes.
Music Explosion.
The Beatles.
Music Explosion.
The Chambers Brothers.
Music Explosion.
Mary Hopkins.
Music Explosion.
The Exception.
Music Explosion.
Robbie Dale.
Goedenavond, dames en heren, meisjes en jongens, allemaal hartelijk welkom to dit de derde en een hele goede jamprogram. And starting the program vanavond, de eerste groep is een hele goede, met een stukje Beethoven. Beethoven's Fifth, this is Exception.
En avril 69, la presse relaie une rumeur faisant état du lancement prochain de Caroline Télé. Ce n'est pas la première fois que Ronan O'Reilly s'intéresse à la télévision. En mai 1966, alors que Caroline South émettait depuis le Cheta 2 suite à l'échouage du Miamigo, il avait déjà été question d'un tel projet. Le Cheta 2 avait été équipé d'un studio de télévision en 1962, à l'époque où il était exploité par Radio Nord. Et lorsque Britt Wadner le racheta, Téléseed émit parallèlement à Radio Seed durant quelques temps depuis ce navire à destination du public suédois. Lorsque Caroline récupéra le Miamigo, Ronan O'Reilly songea déjà sérieusement à lancer une chaîne de télévision depuis le Cheta 2, qui aurait émis vers Londres et le sud-est de l'Angleterre. Plus tard, son associé, Philip Solomon, imagina aussi d'utiliser le même navire, mais ancré cette fois dans le canal de Bristol pour diffuser des programmes télé vers le pays de Galles et l'ouest de l'Angleterre. Rien ne s'était concrétisé. Quelque temps après le remorquage des deux navires de Caroline, Ronan O'Reilly s'intéressa à nouveau à l'idée de lancer une chaîne de télévision. Si l'on en croit les dernières rumeurs, le projet est assez fou. Il s'agirait d'utiliser le système de la Stratovision et d'émettre depuis le ciel. Un matériel d'émission et des studios serait embarqué à bord de deux gros avions volant à 6000 mètres d'altitude dans l'espace aérien international aux abords de la côte est de l'Angleterre. Les programmes seraient diffusés du lundi au vendredi de 18h à minuit et jusqu'à 2h du matin le week-end. Ils comprendraient la diffusion de films, de documentaires, mais aussi un talk show et une émission musicale quotidienne. À cet égard, on parle déjà de la présence de John Lennon et de Yoko Ono dans un des premiers numéros. Plusieurs conférences de presse avaient déjà été données courant 1968 à propos d'un tel projet Télé Caroline. On en reparle donc en avril 69. Coup de bluff de la part d'O'Reilly ou projet sérieux? Depuis l'arrêt des radios maritimes en août 67 et la fin brutale de Radio Caroline en mars 68, la presse se fait parfois discrètement l'écho de projets visant à lancer une chaîne de télé ou à redémarrer des émissions de radio depuis la mer. Il a par exemple été plusieurs fois rapporté que Roy Batts, ex-fondateur de Radio Essex, allait relancer un programme depuis un fort maritime. Le 2 juillet 1969, le gouvernement allemand met en place à la hâte une loi anti-radio offshore. Ayant eu connaissance du projet de l'agence de publicité Gloria de démarrer une station de radio depuis le MV Galaxy, les autorités allemandes ont préféré prendre les devants. Cela provoque le retrait du dernier bailleur de fonds qui soutenait encore la future radio. C'est donc la fin du projet Radio Gloria. Mais Erwin Meister et Edwin Bollier se sont pris au jeu et décident de poursuivre les recherches d'un navire, car le Galaxy est en mauvais état. Ils achètent un premier navire qu'ils rebaptisent le Mebo, d'après le début de leurs deux noms de famille, et le font enregistrer au Panama. Billboard, 29 novembre 1969. La radio pirate fait son retour, par Rodney Collins. Londres, un groupe de cinq hommes d'affaires européens prépare le retour de la radio pirate en Grande-Bretagne. Une station, inspirée de Radio Caroline et de Radio London, est en préparation pour commencer des émissions test peu avant Noël. Provisoirement baptisée Radio 266, la station émettra sur l'ancienne fréquence en ondes moyennes de Radio London, diffusant ce qu'elle qualifie de pop commercial et progressive 24 heures sur 24, depuis un navire ancré à 6 km au large de Frinton, dans l'Essex. Parallèlement, deux anciens navires Radio Caroline ont été transférés dans un nouveau port à Amsterdam et sont actuellement toujours sous la garde de la police. Alan Clark de Radio Netherlands a rapporté depuis Hilversum cette semaine, les studios sont encore intacts et peuvent donc être utilisés à tout moment. La rumeur court que le vieux navire de Radio London, le Galaxy, retournerait également à Amsterdam pour une remise en état. En cas de succès, ce projet marquera le retour de la radio commerciale en Grande-Bretagne et constituera un outil promotionnel précieux pour les maisons de disques. Toutefois, le soutien des maisons de disques britanniques s'exposerait à des poursuites pour infraction au Marine Broadcasting Offense Act. Parallèlement à ces rumeurs, on peut parfois capter des radios émettant depuis le territoire britannique, le plus souvent à faible puissance et de façon sporadique. Il s'agit toujours d'émetteurs terrestres. L'une de ces radios diffusant irrégulièrement, apparemment depuis Dublin à partir de 1970, s'appelait Radio Caroline, mais n'avait rien à voir avec la station historique. Elle était affiliée à un magazine, Seven Independent Radio Association Magazine.
And there's even more the Tablet of Motown record music for you. Of course, the Isley Brothers and Behind a Painted Smile. Craig and mine, if you so desire, like joining the Southern Independent Radio Association, I'm sure you'd like to. But don't forget, if you fancy to have all the details right there in front of you, well, you can do just that by simply sending an SAE, a stamp address envelope, to 91 Park Street, Horsham, Sussex, okay? Don't forget to join the SIRA, the Southern Independent Radio Association, by simply writing to 91 Park Street, Horsham in Sussex. And having said that, quick reminder, this is Caroline, and you're listening to The Martin Caine Show. And here's a bit of poetry, actually. I was reading through another little book over here. Oh, piles of books in the studio today. And do you like poetry? I'm mad on poetry. So if you have any good poems, remember to send them in. Don't forget, that's 91 Park Street, Horsham, Surrey. And here's one. Let's hope I get it right. Because though I like poetry, I'm awful at reading poetry. I like the girls who say they will. I like the girls who won't. I hate the girls who say they will.
Erwin Meister et Edwin Bollier vont finalement faire l'acquisition d'un second navire, le Silvretta, un ancien caboteur norvégien rebaptisé Mebo 2. C'est lui qui va accueillir la future radio, alors que leur première acquisition servira de bateau de ravitaillement. Le Mebo 2 fut sans conteste le navire radio le plus luxueux et le plus professionnel de l'histoire des radios offshore. Il est équipé d'un matériel radio ultra moderne, mais aussi de moquettes, de douches, d'une cuisine et de tout ce qui peut contribuer au confort des DJ et de l'équipage. Le Mebo 2 est doté de 5 émetteurs, 2 pour les ondes courtes, 2 pour les ondes moyennes et 1 émetteur FM. Les investissements consentis sont très importants. On parle de 4 millions de francs suisses. Le 22 janvier 1970, le navire quitta Rotterdam pour Nordwijk. Et le lendemain, les premiers essais de transmission de Radio North Sea International débutèrent sur les ondes courtes et en FM. Il s'agit d'un programme musical avec des annonces en allemand.
Hier ist Radio Nordsee International mit seinem Testprogramm auf UKW zu hören bei 102 MHz. Radio Nordsee International strahlt seine Sendungen live aus und wenn schon einmal eine Panne passieren sollte, schon während unserer Testsendungen, dann darf ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitten, ein Auge zuzudrücken. Pannen passieren überall.
Quelques jours plus tard, le lundi 9 février, R&I procède à de nouveaux essais de transmission. Cette fois, on peut entendre deux voix, celle de Horst Reiner, mais aussi une annonce enregistrée en anglais avec la voix de Roger Day, ancien DJ de Radio Caroline. Les tests se font cette fois simultanément en FM et en ondes moyennes.
Welle 49 Meter Europa Bandgleich 6,21 MHz und auf UKW gleich 102 MHz und empfangen das Testprogramm.
This is the sound of Europe. Radio North Sea International on test transmissions. We broadcast on the shortwave European band 49 meters, 6.210 megacycles, and finally on the FM band of 102 megacycles.
Le 26 février, le consul du Panama à Rotterdam annonce que son pays a retiré son pavillon au Mebo 2. Le 28, les programmes réguliers de Radio North Sea International débutent à 18h.
Hier ist Radio North Sea International. Auf der Mittelwelle 186 Meter gleich 1605 kHz, auf der Kurzwelle 49 Meter Europaband gleich 6,21 MHz und auf UKW gleich 102 MHz.
This is Radio North Sea International on the 49-meter shortwave band 6.210 megacycles. We operate also on the medium wave 186 meters, 1607 megacycles. Also to be found on the FM band of 102 megacycles.
L'arrivée de la nouvelle station va susciter une énorme campagne de rejet dans la presse néerlandaise, malgré le fait que RNI ne diffuse aucun programme dans cette langue. Radio Veronica, qui émet régulièrement depuis le 6 mai 1960, avait non seulement séduit un public, mais avait aussi réussi à se faire tolérer par les autorités et les autres médias. Avec des émetteurs plus puissants, RNI va déclencher une véritable hostilité et la presse néerlandaise réclame une loi anti-radio offshore. Dès le début des émissions, le service des postes hollandais signale des interférences entre l'émetteur en ondes moyennes sur la fréquence 186 mètres et une radio italienne. L'émetteur en ondes courtes est lui accusé de brouiller les canaux de communication des services de sauvetage norvégiens. Le 4 mars, les gardes-côtes néerlandais déplorent aussi des interférences avec l'émetteur en ondes moyennes. Les responsables de la station décidèrent alors de déplacer le Mebo 2 vers une région qu'ils imaginaient moins hostile. Il jeta l'ancre le 23 mars au large de Clacton-on-Sea dans l'Essex. Ce choix peut sembler étrange, car les autorités britanniques eurent fort à faire pour réduire au silence les radios offshore. et il était peu probable qu'elles restent sans réaction face au retour d'un navire radio près de leur côte. D'autant que durant le voyage, RNI poursuivit ses émissions et causa apparemment de nombreuses interférences dans les communications entre les gardes-côtes et les navires. Le 27 mars, la station coupe son émetteur en ondes moyennes pour réglage, mais poursuit ses émissions en ondes courtes et sur la FM. Un problème technique réduit alors la station au silence, mais elle revient le 10 avril en ayant changé de fréquence. Toutefois, son émetteur continue de gêner. Cette fois, ce sont des radios norvégiennes qui sont brouillées, ainsi que le signal de Radio Véronica. Pour la première fois dans l'histoire des radios offshore, le ministère des Postes et Télécommunications britannique va autoriser le 15 avril le brouillage de la fréquence en ondes moyennes de RNI. Le soir même, la station interrompt ses émissions sur la fréquence 190 mètres. Le 30 avril, elle redémarre des essais de transmission sur une nouvelle fréquence FM et ondes moyennes, 217 mètres. Même si RNI propose des programmes en anglais et en allemand, il est clair que les responsables misent surtout sur le succès des émissions à destination du public britannique. Même si le programme Radio 1 de la BBC est parvenu assez vite à séduire, la déferlante des radios offshore est encore dans les mémoires. Et il n'est pas absurde de penser qu'un programme concurrent de celui de la BBC pourrait facilement trouver une audience. De fait, le public anglais ne tarda pas à apprendre l'existence de Radio North Sea International malgré la faible couverture de la presse britannique qui ne veut pas risquer de contrevenir à la loi.
Give me that ding there from the Pipkins, and this is Andy Archer saying good morning and welcome to Radio North Sea International on 217.
This is the place that's gonna blow your mind,
the place that's gonna blow your mind,
the place that's gonna blow your mind.
The place that's gonna blow your mind.
This is the sound of Radio North Sea.
Le 1er mai 1970, une nouvelle radio offshore fait un très discret premier essai de transmission. Il s'agit d'une courte diffusion d'un programme repris du BBC World Service. Capital Radio, c'est son nom, est la première station offshore à but non commercial. Elle est liée à l'International Broadcaster Society, fondée par Tim Thomason. Le but de cette station est de mettre en pratique les objectifs de l'IBS, soutenir des professionnels de la radio pour réaliser des programmes de qualité. Tim Thomason va s'associer à Paul Harris, grand connaisseur des radios offshore et auteur de plusieurs livres sur le sujet, afin de définir les grandes lignes du projet de cette nouvelle station. En décembre 1969, Thomason avait obtenu un financement. Fin janvier 70, un premier navire ravitailleur fut acquis et en février, le caboteur Zevar fut acheté. Rebaptisé King David, il fit route vers le port de Zaandam pour y être transformé. Les responsables de Capital Radio rachetèrent l'équipement de l'ancienne Radio 270 qui avait été retirée de l'Ocean 7 avant sa démolition. Le 25 avril 1970, le King David était prêt et fit route pour démarrer un premier essai de transmission. Mais son antenne de conception circulaire se déforma et contraignit un retour au port. Le 1er mai, un premier essai de diffusion a donc lieu. Mais la station va connaître de nombreux autres problèmes techniques et son arrivée sur les ondes prendra encore plusieurs mois. Le General Post Office continue à brouiller RNI et le 1er mai, la station arrête à nouveau son émetteur en ondes moyennes. Elle revient le 13 mai sur 244 mètres, une fréquence très proche de celle de Radio One. Le brouillage reprend quelques jours plus tard. Mais en raison de la proximité avec la fréquence de Radio One, 247 mètres, le brouilleur aggrave la situation car il brouille aussi partiellement Radio One pour les auditeurs du Kent et de l'Essex. Le 28 mai, RNI et le gouvernement britannique vont se poursuivre sur les ondes moyennes. La station changeant de fréquence toutes les 15 à 20 minutes, rattrapée à chaque fois par le brouilleur. Finalement, le soir même, RNI cessa ses émissions en ondes moyennes, mais poursuivit en ondes courtes et FM.
You get a positive start here on Radio North Sea, Radio North Sea, Radio North Sea.
C'était les DJ de la haute mer, 21e épisode.